Matt. Christophe Ondelatte.
Je ne vous ai jamais raconté d'histoire comme celle-ci. Un meurtre pour venger un suicide. Le meurtre de Vanessa Mayor en août 2013 à Agde dans l'Hérault. Une histoire bouleversante, vous le verrez, à plus d'un titre, qui se déroule dans la communauté gitane. Je la débrieferai tout à l'heure avec maître Jean-Marc Darrigade du barreau de Montpellier. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Cette histoire commence par une scène terrible, terrible. Un cauchemar. Un matin d'août 2013, le 9, à Agde dans l'Hérault, aux alentours de 8h30, une jeune femme qui s'appelle Vanessa Mayor, se lève. Elle constate que son compagnon, Angèle, n'est pas dans le plumard. Mais elle est à moitié surprise, il est parti en bringue la veille au soir avec des copains. Et là, elle traverse leur appartement pour aller s'occuper de leurs deux enfants. Elle passe devant le dressing. Et elle le voit, Angèle, en slibar, assis dans le dressing. Pendant une poignée de secondes, elle se dit « Il dort ? Il cuve ?» Mais non, elle le touche. Il est froid. Il est mort. Il a un foulard noué autour du cou, et ce foulard est attaché à une barre de la penderie. Il s'est pendu. Il s'appelait Angèle Valcarcel. Il s'est suicidé. Immédiatement, Vanessa appelle son beau-père, qui s'appelle aussi Angèle. C'est une famille de gitans. Les hommes se transmettent le nom.
Angèle ! Angèle, il est mort ! Il s'est pendu !
Quoi ? Quoi ? J'arrive, putain !
Sur le trajet, ça bouillonne dans sa tête, au père. Il sait que ça n'allait pas trop bien dans le couple ces derniers temps. Et donc le père déboule à l'appartement. Et il trouve sa belle-fille Vanessa en état de choc, incapable de parler. Et les pompiers sont là. Il lui confirme la nouvelle. Votre fils est mort, monsieur Valcarcel. C'était un suicide. Et après, il va chercher sa femme, Antoinette, et il revient avec elle. Entre-temps, des policiers sont arrivés. Et ils redisent ce qui paraît une évidence.
C'est un suicide, madame. Votre fils est suicidé.
Mais elle ne peut pas le croire. Elle ne veut pas le croire. On ne se suicide pas. Il n'y a que Dieu qui peut donner et reprendre la vie. Et pourtant, son fils s'est suicidé. Un suicide, il y a toujours un minimum d'enquête. Et les policiers qui sont là se tournent vers Vanessa.
Mais dans le cadre de la procédure, il faudrait que vous nous suiviez au commissariat, madame. Hein, on doit vous entendre. D'accord ?
D'accord. Au commissariat, elle répond aux questions qu'on lui pose, avec beaucoup de franchise.
Il avait des problèmes en ce moment, notre compagnon, madame.
Mais hier soir, on s'est un peu disputé, quoi. Mais pas plus que d'habitude, ces derniers temps, on se disputait beaucoup. Il est sorti hier soir sans me dire où il allait.
À quelle heure est-ce que vous vous êtes couché?
Vers minuit.
Vous avez entendu à quelle heure il est rentré?
Non. J'ai rien entendu. J'ai dormi.
À quelle heure est-ce que vous l'avez découvert?
8h30 quand je me suis levé. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Il m'a même pas laissé de mots. Il nous laisse comme ça, ses deux enfants et moi.
Un médecin légiste examine le cadavre. C'est pas une autopsie, hein, c'est juste un examen externe. On ne sait jamais, il y a des meurtres déguisés en suicide. Mais là, non. D'après le légiste, non.
Bon. Aucune trace ni marque suspecte, pas de trace de coup, pas de signe de bagarre non plus. Nous avons une seule et unique lésion à la gorge qui est typique des cas de pendaison.
Bon, c'est un suicide, il n'y a aucun doute.
Ok. Donc si c'est un suicide, il n'y aura pas de suite. Le corps est rendu à la famille. Selon la tradition gitane, le corps d'Angèle Valcarcel est veillé pendant 3 jours. Toute la communauté gitane de la région défile devant le cercueil. Et après, ont lieu les obsèques. Et à partir de là, disons que la famille a un doute, un gros doute, un doute qui se nourrit d'un détail. Quand on a retrouvé Angèle mort dans la penderie, il était en slip et torse nu. Et étrangement, son pantalon et son t-shirt étaient à côté bien pliés. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis moitié à poil avant de se pendre? Cette question tourne en boucle dans la tête des parents. Et un jour, le père dit à la mère
« On va se tuer tous les deux! Saint Angèle, on n'a plus rien à faire sur cette terre !»
Angèle père ne va pas mettre son geste à exécution. Mais la mort de son fils devient comme une obsession. Il va sur la tombe tous les jours, mais pas pour arroser les chrysanthèmes. Il prend un transat, un parasol, et il s'installe face à la tombe. Et il lui parle pendant des heures, des journées entières.
Il était devenu complètement fou. Il déraillait complètement.
Un mot sur cet homme qui est en train de devenir fada. D'abord, Angèle Valcarcel, le père, n'est pas un vrai gitan. Il n'est pas un gitan de sang. C'est un Espagnol qui a grandi dans le sud de la France. Sauf qu'il est tombé amoureux d'une gitane, Antoinette, et que la communauté l'a adopté. Jusqu'à la mort de son fils, il était caroleur. Mais depuis, il a arrêté de travailler. Désormais, il consacre toutes ses journées à son défunt fils adoré. Un jour, il est devant la tombe d'Angèle et son regard s'arrête sur une photo qui est posée là, sur le marbre. Une photo d'Angèle avec Vanessa. Et ça lui fait comme un déclic. C'est de sa faute. C'est à cause d'elle tout ce malheur. D'autant que ses amis lui en racontent de bien bonnes.
Ah, elle s'habille plus en noir. Et le mérimi, jupe. On l'a vu dans des cafés. Dans des cafés, je te dis.
Et ça, chez les gitans, ça ne passe pas. La tradition veut que la veuve porte le noir pendant 1 an, qu'elle aille vivre dans sa belle famille, c'est comme ça. Et elle, elle met des mini-jupes, elle va au café, elle se tient mal. Le clan lui a trouvé un petit nom, la veuve joyeuse. C'est très injuste, hein, parce qu'en vérité, contrairement à tous ses sous-entendus, Vanessa ne fréquente pas un autre homme. Elle vient de se faire tatouer Angèle sur la poitrine. Et elle élève parfaitement bien leurs 2 enfants. Elle a déménagé, c'est vrai, elle a pris un autre appartement. Mais enfin, mettez-vous à sa place. Est-ce qu'on peut vivre dans un appartement où son chéri s'est pendu? Et Vanessa comprend vite que sa belle famille l'a dans le nez. Pour leur répondre, elle choisit Facebook, mais sans viser personne. Un jour, elle écrit « Ce que tu ne vois pas dans tes yeux, ne l'invente pas avec ta bouche. » Mais dans le camp d'en face, les cancans continuent. Alors un jour, elle poste un message plus explicite. « J'ai fait confiance, j'ai aimé, j'ai adoré et j'ai été trahi. Je considère que je n'ai aucun compte à rendre à personne et que ma façon de vivre, mes décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles plaisent ou non, ne regarde que moi. C'est pour bien faire comprendre aux personnes qui me jugent, me critiquent ou parlent de moi, que je les emmerde avec le sourire. » Et elle ajoute un smiley pour conclure. Et puis comme elle se sent harcelée, un jour Vanessa va au commissariat.
« Bonjour, je pourrais voir le chef que j'ai vu au moment du suicide de mon mari, s'il vous plaît ?»
C'est le brigadier Philippe Cazès qui la reçoit.
j'ai des problèmes avec la famille Valcarcel. Ils me suivent, ils m'espionnent, ils m'empêchent de voir qui je veux. Ils m'ont dit, tant que tu seras à Agde, la famille va te harceler. Ils m'ont dit, tu pourras rien faire, on te conseille de quitter Agde.
Ce qu'elle ne sait pas, Vanessa, à ce moment-là, c'est qu'elle n'est pas la première à aller voir les flics. Le père Valcarcel vient les voir tous les matins, à 8h moins le quart. Puisque je vous dis que c'est pas un suicide, c'est un assassinat. Il vient leur seriner ça tous les matins depuis la mort de son fils. Ça ne sent pas bon, tout ça. Ça ne sent pas bon. Et les flics, alors? Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette idée? Un assassinat déguisé en suicide? Eh bien, ils n'y croient pas. Le légiste l'a dit, il n'y avait aucune trace sur le corps d'Angèle qui relève d'autre chose que de la pendaison. Pas de trace de coup, pas de blessure par balle, rien. Alors tous les matins, ils envoient bouler le père. Tant pis. Le père a décidé de mener sa propre enquête. Avec sa femme, Antoinette, qu'il a réussi à remonter comme une pendule. Et ça y est, ils ont des infos. Ils savent où était Angèle la soirée qui a précédé sa mort. Il a rejoint des amis et des cousins et ils sont tous allés en boîte de nuit, à l'Amnésia. D'après les témoignages qu'ils ont pu recueillir, Angèle était en pleine forme. Il a dansé toute la nuit, comme d'habitude. Il a même payé sa bouteille de champagne. Et Guilla, le cousin d'Angèle, dit qu'il l'a ramené chez lui à 5h du matin. Quand je l'ai déposé en bas de chez lui, je vous jure qu'il n'était pas déprimé. Rien. Pas triste, rien. Et quand on s'est quitté, il m'a dit « Bonne nuit, à demain. » C'est tout. Évidemment, dès qu'il apprend tout ça, le père va voir le commissaire. Ils m'ont dit qu'il était dans une forme olympique. Pas du tout le gars qui va se suicider, vous comprenez? Vous voyez? Hein, son cousin nous a dit qu'en partant, il lui a dit « à demain ». On ne dit pas ça quand on va se suicider, enfin. On l'a tué, je vous dis. Monsieur Valcarcel, je sais que c'est dur pour vous, hein. Mais c'est un suicide. Je vous demande au moins d'interroger son cousin. Il vous dira, lui. La mère, Antoinette, finit par aller voir Vanessa.
Vanessa, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a que toi qui peux nous le dire. Parle-nous. Tu étais dans l'appartement? Je veux savoir.
Vanessa n'en peut plus. Qu'est-ce qu'elle veut savoir? Il n'y a rien à savoir. Elle a déjà dit tout à la police le jour même. Alors elle envoie bouler sa belle-mère.
J'ai rien à vous dire. Rien.
Sauf que l'autre, qu'est-ce qu'elle lit dans son regard à ce moment-là? La peur, la trouille. Et elle se dit, c'est bien la preuve qu'elle est coupable. Dans la tête du clan maintenant, c'est très clair. Vanessa a tué Angèle. Et puisque le père n'arrive pas à convaincre les policiers, il écrit au procureur. Une lettre, deux lettres, trois lettres. Il a dit à demain, il était en pleine forme. Pourquoi est-ce qu'il a enlevé son t-shirt et son pantalon? Et le procureur de Montpellier finit par se dire, pourquoi pas? Alors 2 mois après la mort d'Angèle, il ordonne une enquête préliminaire qu'il confie, pas à la police judiciaire, hein, juste au commissariat d'Agde.
Oui, je voudrais que vous entendiez, je dirais, une dizaine de personnes, hein, de l'entourage du jeune Valcarcel, essentiellement ses amis qui étaient avec lui durant la soirée qui a précédé sa mort. Hein? Et puis sa compagne, bien sûr. Hein? Vanessa Mayer. D'accord?
Entendu, monsieur le procureur, entendu.
Tous ces interrogatoires confirment que ce soir-là, Angèle était en forme, qu'il n'avait pas du tout l'air suicidaire.
Il était nickel. Nickel, franchement, on a bien rigolé. On a picolé un peu. On fumait un bédo ou deux. Mais franchement, nickel.
Et comme de demandée par le procureur, Vanessa Mayor est interrogée et elle répète ce qu'elle a dit la première fois. Elle dormait, elle ne l'a pas entendu rentrer, elle n'a entendu aucun bruit, elle l'a juste trouvé mort quand elle s'est levée. Mais elle ajoute quelque chose qu'elle n'avait pas dit jusqu'ici.
Il faut quand même que je vous dise. Il consommait de la drogue, Angel. Et deux, il fumait du bédo le matin au soir. Genre, je sais pas moi, 10 bédos par jour. Et de deux, le soir, quand il picolait. Il prenait aussi la coke. 1 ou 2 grammes à chaque bring.
Ça, c'est la première fois qu'elle en parle.
Mademoiselle Mayor, dites-nous. Ces substances avaient une influence sur le comportement d'Angèle.
Angèle, il était adorable. Mais dès qu'il touchait à cette merde, il devenait violent, incontrôlable. Il me frappait. J'ai des preuves.
Elle dit que dans l'appartement où il vivait, il y avait plein de coups sur le placo-plâtre. Des coups de poing qu'il mettait dans les murs à chaque fois qu'ils se disputaient.
Même ses parents, hein. Ils étaient au courant, hein, de ça. Je leur ai dit. Et pour la drogue, et pour les coups.
Sauf que les parents n'ont pas la même version.
Oui, ils donnaient des coups dans les murs.
Mais il était tellement possessif.
C'était pour se calmer. Et pour la drogue, elle-même. Il prenait pas de drogue, mon fils. Il prenait pas de drogue.
Il y a un moyen de trancher cette question. Il n'y a qu'à exhumer le corps et analyser son sang et le contenu de son estomac. S'il s'est défoncé ce soir-là, on pourra envisager qu'un mauvais trip soit la raison de son suicide. Mais attention, hein. Vous remarquerez au passage que cet épisode ne vient pas vraiment conforter la théorie des parents. Enfin, savoir s'il a pris de la coco et fumé des pétards la nuit qui précède son suicide ne nous amène pas du tout sur la piste d'un assassinat. L'exhumation a lieu le 26 mai 2014 et les résultats de l'autopsie tombent en juin. Les légistes confirment que le corps ne présente aucune trace de coup. En revanche, les analyses toxicologiques.
Bon, il avait bien consommé des stupes, hein. Dans son sang, on identifie un mélange de cannabis, de cocaïne, d'alcool et de somnifères.
Il a fait un mauvais mélange, et on peut supposer, mais enfin, c'est tirer des plans sur la comète, hein, mais on peut supposer que ça l'a mis dans un état suicidaire. Voilà ce qu'on peut dire. C'est donc un suicide. Mais est-ce que les parents d'Angèle y croient? Eh ben non. Eux, ils n'ont pas changé d'avis. Leur belle-fille a tué Angèle. L'antagonisme entre les parents d'Angèle et Vanessa n'est pas vraiment nouveau. Et il faut peut-être que je vous raconte le tout début de cette histoire. Ça se passe durant l'été 2005. Vanessa Mayor, qui a 17 ans et qui est lyonnaise, vient passer des vacances à Agde, chez sa grand-mère. C'est une très jolie blonde. Et un jour, elle croise un beau brun ténébreux de 18 ans, Angèle. Il l'invite à la fête foraine. Et c'est le coup de foudre. Et après, c'est pas simple, hein, parce que Vanessa n'est pas gitane. Angèle sonde le terrain auprès de sa mère.
Mais qu'est-ce que ça fiche, hein? Ton père non plus, il est pas gitane. Et alors, il s'est intégré.
Mais Antoinette veut la voir même de loin. La scène est absolument redoutable. Le soir même, la mère va s'asseoir sur un banc sur la promenade, à Agde. Et le fiston passe à côté en tenant Vanessa par la taille. Et de loin, la mère lui fait un signe. C'est bon, c'est la bonne. Et après, il y a des règles. Les parents du garçon doivent aller demander sa main aux parents de la fille. C'est comme ça que ça se passe. Et donc un jour, les parents Mayor voient débarquer chez eux à Lyon la famille Valcarcel au grand complet. Le père, la mère, le fils et même la grand-mère. Ils les font entrer dans le salon.
Bien, voilà. On voulait vous demander la main de votre fille.
Gros malaise dans le camp Mayor.
Voilà, faut quand même se calmer un peu, là. C'est un peu tôt, non? Hein? Vanessa, elle a même pas 18 ans. Va falloir vous calmer, hein.
Les Mayor ne veulent pas en entendre parler. Sauf que Vanessa, elle est amoureuse. Et donc elle claque la porte et elle va s'installer à Agde. Avec Angèle, ils prennent un petit appartement, celui-là même où Angèle est mort. Il n'est plus question de mariage, mais c'est tout comme. C'est sa femme et c'est son mari. Et les parents de Vanessa finissent par accepter le choix de leur fille. Angèle travaille, son père était carreleur, et bien lui est carreleur. Et les premières années, ils font pas mal la fête. Et puis en 2009 arrive un petit garçon, et en 2011 un deuxième. Et ça change tout. Vanessa ne peut plus sortir, alors qu'Angèle, lui, continue à faire la bringue. Et du coup, Vanessa est jalouse. Est-ce qu'il n'y a pas une femme, une gitane là-dessous? Bref, le couple parent sucette. Et la vérité, c'est que la veille de la mort d'Angèle, le père est passé voir son fils. Et qu'il l'a trouvé, il ne l'a pas dit ça. Il l'a trouvé très déprimé. Angèle lui a dit,
« Papa, avec Vanessa, ça va plus du tout. Plus du tout. Cette fois, c'est vraiment fini. C'est fini avec elle. »
Il ne l'a pas pris au sérieux. Alors il s'en veut. Il aurait dû rester avec lui. Il aurait dû lui parler. Et selon une vieille recette de l'âme humaine, il s'en veut. Et il reporte toute sa colère sur Vanessa. Le 29 août, Angèle Valcarcel, père, est convoqué au commissariat.
Bien, Angèle, on a terminé notre enquête. Angèle, écoute-moi bien. C'est un suicide. Je te jure que c'est un suicide. Tu acceptes ça, que c'est un suicide? Bon, d'accord, j'ai compris. C'est bien. Je suis content. Je suis content si tu admets que c'était un suicide.
Et sur ces mots, Angèle père quitte le commissariat. D'après vous, il a compris? Il admet que c'est un suicide? Bien sûr que non. Il est en rage. Il a la haine. Ça va mal finir. Ça va mal finir. Le 30 août 2014, Angèle Valcarcel déboule au commissariat d'Agde. Pour la énième fois. Mais aujourd'hui, il est très agité. Il tremble.
Ça y est! Je l'ai fait, putain! J'ai vengé mon fils! Ça y est, mon fils est vengé! Vous pouvez m'arrêter! Je viens de buter ma belle-fille!
Il a tué Vanessa!
Je l'ai tué chez elle! Avec un revolver! Je l'ai jeté dans une poubelle de son quartier! Et ensuite, je suis venu vous voir pour me rendre! On pourrait aller vérifier! Elle est morte!
Les policiers foncent au domicile de Vanessa. Quand ils arrivent, la porte est ouverte. Ils la poussent. Et ils la trouvent dans l'entrée, criblée de balles, avec autour des douilles de 11.38. Un policier se penche, elle n'a plus de pouls. Elle est morte. Et là, l'un des policiers avance dans l'appartement.
et il tombe sur un petit garçon de 3 ans.
Qu'est-ce qui se passe? Elle va comment, ma maman?
Le policier le prend dans ses bras. Avec sa main, il lui cache le visage pour ne pas qu'il voie. Et il le sort de l'appartement et le confie à la voisine. C'est elle qui leur dit que le fils aîné est chez sa grand-mère. Il l'a tué alors que son petit-fils était dans l'appartement. Placée en garde à vue au commissariat, Angèle Valcarcel père fournit des aveux complets. Il assume tout.
Ce matin, je me suis levé. Ensuite, j'ai bu un café. Ensuite, j'ai pris mon revolver que je cache dans le compteur électrique. Je l'ai chargé. J'ai rempli un deuxième chargeur. À 9h, je suis parti à pied chez moi, en direction de chez Vanessa. J'ai sonné chez elle, et quand elle a ouvert, j'ai tiré. Même moi, je me demande pourquoi j'ai fait ça. Je voulais pas lui faire le mal. C'est quand même la mère de mes petits-enfants.
Il a tiré 9 fois. On a retrouvé 9 balles dans le corps de Vanessa. L'une des balles a transpercé sa main. Elle a voulu se protéger. La balle a fini dans sa poitrine. Elle est tombée. Et là, tir groupé. Le petit garçon de Vanessa, 3 ans, est entendu en présence de psychologue. Et il mime la scène.
Papy, il était assis sur maman comme ça. Et il faisait poum, 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 poum.
Il a tout vu. Le procès d'Angèle Valcarcel s'ouvre le 27 janvier 2018 devant la cour d'assises de Montpellier. Ses avocats n'ont pas beaucoup de cartes à jouer, si ce n'est le coup de folie, l'obsession du deuil de son fils, les rumeurs qu'on lui rapporte sur le compte de Vanessa. Bref, une mauvaise limonade. Mais dans le camp d'en face, évidemment, on ne l'entend pas de cette oreille. Maître Darrigade défend la famille Mayer.
Quand il part de chez lui, il prend des gants. Ça n'est pas courant, ça, de mettre des gants au mois d'août, à Agde. Des gants. Ensuite, il prend une arme, chargée. C'est un meurtre prémédité. Ça n'est pas un coup de folie. Et ensuite, il va tuer Vanessa sous les yeux de son petit-fils, de 3 ans, dont il fait ce jour-là un orphelin. Qui n'a plus de père, qui n'a plus de mère.
Angèle Valcarcel est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. Avant de quitter le box, il se tourne vers la famille de Vanessa.
Je voudrais présenter mes excuses à la famille Mayer, aux parents de Vanessa, mais aussi à Dylan, son frère, et à Romane, sa sœur.
Mais Jacques Mayer refuse ses excuses. Dans le coup, il s'est fait tatouer en lettres gothiques. Dieu pardonne, mais moi non. C'est lui et sa femme qui obtiennent la garde des 2 enfants. Angèle Valcarcel ne fera pas appel.
Pour conclure cette histoire absolument unique, absolument incroyable, que nous allons maintenant débriefer avec maître Jean-Marc Darrigade du barreau de Montpellier. Vous étiez maître l'avocat de la famille Mayer dans ce dossier. Et il est très fort, je trouve, ce tatouage que se fait Jacques Mayer. Dieu pardonne, moi non. J'imagine qu'il n'y avait aucun pardon possible. Mais aucune compréhension de la douleur de cet homme.
C'est une famille qui est plongée dans une douleur qui est difficile, effectivement, à imaginer. Je me souviens que M. Mayer s'est présenté aux assises et il arborait un t-shirt dont on lui a fait le reproche. Il y avait dessiné en filigrane une forme de tête de mort. Alors c'était la marque du t-shirt, mais évidemment, c'était un message subliminal qui était distillé, et c'était effectivement un père qui n'était pas prêt à pardonner.
25 ans, c'est un assassinat, donc ça, il encourait perpétuité. Vos clients sont satisfaits néanmoins ?
De toute façon, sur la peine, je crois que des parties civiles ne peuvent jamais être satisfaites. La peine ne répare rien, mais c'est vrai qu'elle doit au moins être une mesure correcte de leur douleur. Évidemment, une peine dérisoire serait une insulte à cette douleur et une douleur surnuméraire. Après 25 ans ou perpétuité, je ne sais pas si ça change grand-chose. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que ce dossier, il est vertigineux, si vous voulez, puisque c'est le procès d'une douleur, celle aussi d'un père qui avait perdu son fils, et que, au lieu de raisonner, on a fait basculer dans la déraison.
Et il fabrique une autre douleur. À côté de ça, il y a quelque chose, c'est peut-être ça d'ailleurs qu'il lui faut 25 ans quand il encourait perpète, c'est qu'il assume, c'est qu'il ne fait pas appel. Tout ça est apporté à son crédit, il va se dénoncer lui-même.
Tout à fait. Il va se dénoncer, et d'ailleurs, quand il va se dénoncer, il va dire « j'ai vengé mon fils », et ensuite, il va essayer de faire une espèce de rétropédalage pendant l'instruction, parce que cette parole est trop violente, elle est difficile à assumer complètement. Mais en réalité, c'était la démarche de cet homme-là, et qui avait basculé dans ce que moi j'ai appelé l'erreur justicière. Il s'est transformé en justicier, et il s'est trompé. Et je crois que son procès a été l'occasion terrible pour lui de mesurer à quel point on l'avait fait se tromper.
La scène où il va au cimetière quand même tous les jours parler à son fils, moi je la trouve absolument bouleversante. Enfin, il prend un parasol, il prend un transat et il y passe la journée. Cet homme est détruit. Alors bien sûr, il tue Vanessa. Mais que disent les psys d'ailleurs sur lui ?
Ben, les psys, ils ont analysé ça comme un deuil complètement pathologique. Deuil qui n'arrivait pas à
hystériser, quoi.
Voilà, et complètement. Et il faut savoir que dans son entourage, on l'a très très mal conseillé. Il avait une origine, lui il est espagnol d'origine en fait. Et il a fallu qu'il se fasse adopter par la communauté gitane. Il n'est pas gitan d'origine. Mmh. Et je crois qu'il a été obligé peut-être des fois de surjouer la tradition gitane pour mieux se faire accepter par cette communauté. Et il y a quelques membres de cette communauté qui lui ont dit « mais chez nous, chez les gitans, on ne fait pas d'autopsie ». Et quand Angèle est décédée, ils ont refusé l'autopsie. Mmh. S'ils l'avaient accepté à ce moment-là, peut-être tout ce drame n'aurait pas eu lieu. Mmh. Mais il a fallu ensuite cette obsession douloureuse qui a fait qu'on a ressorti un corps de son caveau. Donc ça aussi, c'est une douleur supplémentaire qui est venue nourrir un deuil impossible.
Et qui menait à rien, en vérité, puisque le fait qu'il ait consommé de la drogue, c'est tout ce qu'on apprend à l'issue de cette autopsie, n'apporte aucun élément sur l'hypothèse d'un assassinat.
Complètement, et d'ailleurs même moi, quand j'ai plaidé contre lui, mais je lui ai parlé, et le pire de tout, vous savez, c'est que cet homme, il m'a parlé à la fin, et même pour la petite histoire, je l'ai croisé dans un parloir avocat dans une prison, et il est venu me serrer la main en m'expliquant que je lui avais parlé, que j'étais un de ceux qui lui avait parlé juste, mais trop tard. Et en fait, il s'est rendu compte qu'on l'avait alimenté dans son erreur, et que si au contraire on l'avait raisonné, on aurait été capable d'éviter ce terrible drame.
Ce qu'on entend d'ailleurs en arrière-fond, c'est que ceux qui lui disent « Vanessa, en gros, a trouvé un autre mec, elle a tourné la page très vite, c'est la veuve joyeuse », en vérité, ce sont des hommes. On retrouve là aussi une forme de machisme terrible. Ces hommes n'acceptent pas que cette femme continue sa vie, quoi.
Mais ce qu'il y a de terrible, vous savez, c'est que vous évoquiez en début d'intervention ce tatouage du père de Vanessa, oui. Qui ne refuse de pardonner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Vanessa s'était fait tatouer le prénom de Angèle sur sa peau après sa mort. Mmh. Après sa mort, preuve de ce qu'elle avait pour toujours décidé de consacrer la mémoire de ce mari et de ces deux êtres qui étaient fusionnels. Ils étaient malheureux, Angèle était malheureux, mais ils s'aimaient à la folie.
Il y a quand même un grand mystère dans cette histoire qui n'est pas résolu par le verdict, c'est le pourquoi. Pourquoi il lui tire 9 balles ? Parce que c'est pas rien ça. La tuer d'une balle, c'est une chose. Mais 9 balles à cette femme qui est tombée au sol, il est fou. Il a l'air fou.
Voilà, c'est une espèce d'assassinat, mais parce qu'effectivement dans l'idée de préméditation, il y a le fait de froidement préméditer donc un meurtre, mais il y a aussi le côté complètement passionnel, irrationnel, qui fait qu'il vit de son chargeur alors même que le corps est déjà à ses pieds, et puisque toutes les 8 balles suivantes vont impacter le carrelage, ce qui démontre qu'il a tiré à la verticale et sous les yeux de son propre petit-fils. voilà, la haine à ce moment-là était inarrêtable, puisque même l'amour de son petit-fils ne pouvait pas l'arrêter.
Il y a aussi une enflure de l'ego, de l'honneur, enfin, de choses très, très machistes, en fait.
C'est un peu, moi, ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais vous n'avez pensé qu'à vous. Et vous n'avez jamais pensé à ces petits-enfants que vous laissiez pour un fils perdu. Vous faisiez, je ne sais pas combien de malheureux autour de vous, parce qu'il a répandu le malheur autour de lui. Et de tout ça, il a convenu. Et c'est parti d'un quiproquo extrêmement terrible et de mauvais conseillers autour de lui, vraiment de très mauvais conseillers qu'on a vu défiler à la barre et dont on a pu mesurer la bêtise.
Est-ce que tout de même le procureur de Montpellier ne commet pas une erreur quand il ouvre cette enquête préliminaire ? Parce que dans la tête d'Angèle, il vient confirmer que peut-être il y a un doute. C'est idiot, ça n'est qu'une enquête préliminaire, mais ça ouvre la porte.
Tellement il était dans cette obsession, ils ont voulu exhumer le corps pour lui dire bon ben voilà, c'est terminé. Et le fait d'obtenir les conclusions de cette autopsie qui aurait dû avoir lieu il y a un an au moins auparavant, il a refusé le résultat de cette autopsie. Et en fait, c'est quasiment à réception du rapport qu'il est allé tuer Vanessa.
Pour terminer, un mot sur ce petit garçon qui avait 3 ans à l'époque, qui doit donc en avoir 10 aujourd'hui. Il a donc vu son grand-père tuer sa mère dans la foulée du suicide de son père. Vous savez comment il va aujourd'hui ?
Mais il a de la chance d'être dans une famille, la famille Mayor, ils l'ont entouré d'une affection, il est très très entouré, il est dans une famille équilibrée. Donc, c'est un enfant qui grandit avec cet héritage-là, mais qui pour l'instant grandit, quoi. Oui. Voilà, après, on ne sait pas quelles seront les répercussions dans l'avenir, mais il a la chance d'avoir des grands-parents aimants, protecteurs, et ensuite les frères et sœurs de Vanessa qui jouent des rôles aussi de rempart affectif. Donc, il est dans un cadre très affectueux aussi, mais après, on ne peut pas se remettre.
J'ai raconté à Maître Darriga des centaines d'histoires criminelles. J'avoue que dès comme ça, jamais, j'ai l'impression que cette histoire va me marquer pour un moment. Alors du coup, je me dis que vous aussi, elle vous a marqué dans votre carrière de pénaliste, non ?
Ah oui, beaucoup, beaucoup, parce que c'est vraiment... j'ai senti un homme complètement perdu qui avait commis l'irréparable, un assassinat terrible, alors qu'on aurait pu avec une toute autre approche de cette douleur, qui est la douleur initiale, c'est-à-dire ce suicide qu'il n'acceptait pas, on aurait pu, avec des aides psychologiques, on aurait pu éviter tout ça. Voilà, on aurait pu éviter tout ça, mais c'est vraiment l'assassinat de la bêtise.
Merci, Maître Darrigade.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.